Alors, avant que Pierre-Damien reprenne le cours de cette conversation et de cette rencontre, je souhaite juste indiquer, marquer un élément, c'est que dans À quoi tient le design, il y a un fascicule qui est intitulé précisément « Poussée technique et conduite de découverte ». Donc voilà, je indique juste à titre indicatif qu'il y a ici des lectures possibles par rapport au sujet qui nous occupe. Donc, voilà, je laisse la parole à Pierre Damien.
Bonsoir à tous. Quand Grégory m'a demandé si je pouvais ou voulais, les deux, venir ici, je lui ai dit oui, sans hésitation, sous réserve de trouver une date qui convenait à tout le monde. Mais à ce moment-là, je pensais qu'il me ferait parler. D'ailleurs, il me semble qu'il l'a un peu rappelé dans la présentation de tout à l'heure, d'une notion que j'ai proposée à la suite d'un travail que j'avais fait avec des designers qui avaient été primés par le VIA en 2011. Et cette notion, c'était la notion de technique hospitalisable. Et je pensais à ce moment-là que je me retrouverais devant un public d'une trentaine d'auditeurs dans une salle close, chaude, où on parle à voix nue. Et c'est pas du tout le cas. Donc vous êtes nombreux. Et puis je pensais qu'on allait procéder peut-être beaucoup par... c'est énervant ce micro qui non, ça vous gêne pas. Qu'on allait procéder par discussion. Et c'est pas du tout le cas non plus, il faut que je fasse un exposé relativement ordonné et suivi. Et en plus, il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, j'ai voulu m'assurer auprès de Grégory du sujet sur lequel il voulait que je parle, souhaitait que je parle. Et il m'a dit j'aimerais bien t'entendre, on se tutoie, c'est pas toujours tutoyé, mais maintenant on se tutoie, j'aimerais bien t'entendre parler sur le mode d'emploi. J'ai dit bon. Et je me suis mis au travail. Et j'étais pas parti avec cette idée-là, mais j'ai suivi la commande. Et donc, je vais parler de la notion de mode d'emploi. Je pense que c'est plus conforme d'ailleurs au sujet du jour, à la fois à ce qui est exposé sur les tables à ma gauche et à ce qu'a dit Caroline qui a parlé avant moi. Alors, je vais interroger la notion de mode d'emploi en philosophe. Je ne suis pas capable de faire autrement. Et avant, je vais vous dire que la philosophie, pour moi, ce n'est pas, comment dire ça, une méthode ou une sorte de savoir ou une discipline qui a réponse à tout. Je ne pense pas, quelles que soient les réputations ou les apparences, que les philosophes, quand ils font juste leur travail, soit capable d'apporter des solutions. En fait, la philosophie, c'est, disons, un art d'entretenir des questions, d'entretenir des problèmes. Je vais donc problématiser la notion de mode d'emploi et entretenir un certain nombre de questions à son égard. Comme je suis un ancien bon élève, j'ai prévu de faire un exposé en 3 temps. Alors, le premier temps, c'est une sorte de raisonnement quand même, hein, c'est d'exposer en 3 temps, c'est pas complètement désordonné. Pourquoi je vais parler d'abord du premier point, puis du deuxième, puis du troisième, dans cet ordre-là, il y a quand même une raison, il y a une sorte de raisonnement que je vais essayer de construire un petit peu, en tout cas de vous proposer. Le premier temps, ça sera justement le temps du problème. Vous allez voir, voilà. Peut-être qu'il faudra un tout petit peu de concentration. Ensuite viendra le temps des doutes, c'est un certain nombre de doutes. Et puis pour finir quand même pas trop mal, je voudrais faire non pas des énoncés de solutions, mais une proposition. Donc pour commencer, réflexion critique ou problématique sur la notion même de mode d'emploi. Alors, quand je dois faire le travail comme celui-là, hein, j'aimerais bien t'entendre parler sur la notion de mode d'emploi. Ma façon de travailler, pour commencer, ça consiste à me mettre les mains dans les poches et aller faire un tour en ville
et à réfléchir, à travailler.
À réfléchir ou à travailler, disons d'une certaine manière, mine de rien, à jeter des idées, à les faire tourner, et puis ça s'organise petit à petit. Je n'ai trouvé l'ordre dans lequel je vais être capable de vous parler que finalement avant-hier. Alors, je vais commencer par dire que l'expression pour le philosophe mode d'emploi est une sorte d'oxymore en elle-même. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un oxymore. Disons que c'est une expression qui associe des termes qui peuvent être contradictoires. Je pense, j'en suis venu à penser, avec les lectures que j'ai dans la tête, que le mot « mode », un champ de signification qui ne se retrouve pas dans le champ de signification du mot « emploi ». Et je voudrais vous expliquer évidemment un petit peu ça. Il y a quelque chose d'intéressant dans le mot « mode », sur quoi je reviendrai dans ma troisième partie tout à l'heure, qui est le fait que ce mot a la même racine que « moderne », que « modification », « mode », voilà, « modifier ». Je ne pense pas qu'on puisse réfléchir à la notion de mode, je ne parle pas de la mode, hein. Je ne pense pas qu'on puisse réfléchir à la notion de mode sans impliquer le fait qu'il puisse y avoir des modalités. C'est une notion plurielle par excellence, la notion de mode. Il y a un mode de quoi que ce soit, c'est très général pour commencer, hein, ce que je vous dis. Il y a un mode de quoi que ce soit que parce qu'il existe un autre mode qui se distingue du précédent. C'est une notion relative. En revanche, la notion d'emploi n'est peut-être pas une notion relative. Je vais y revenir également, plutôt cette fois, dans la deuxième partie de mon propos. L'enjeu de ce qu'on appelle curieusement et banalement un mode d'emploi, ça serait ma proposition pour commencer à réfléchir, en tant que c'est une expression paradoxale, oxymorique, l'enjeu de la notion même de mode d'emploi, ça peut être précisément, parce qu'il y a emploi dans l'expression, de réduire le jeu des modalités possibles dans l'exercice d'une technique. Alors je dis exercice d'une technique, je ne dis pas utilisation d'une technique, je cherche des mots pour préciser quelque chose ou pour faire entendre quelque chose qui me semble important, à savoir que la technique, je vais revenir aussi petit à petit sur ces notions, elle me semble être en soi plurielle. C'est-à-dire que il n'y a pas de technique qui n'implique une pluralité d'orientation possible. Alors, si on dit utiliser une technique, généralement, en fait, ce qu'on a dans la tête, c'est une assignation de la technique à un emploi, à un de ces emplois possibles. Et du coup, ça fait perdre de vue, ou ça fait oublier la possibilité que cette technique se modalise. Hein, j'utilise bien ce mot, je dis bien modaliser, je ne dis pas modéliser. Hein. Justement, peut-être que le mode d'emploi modélise une technique qui, par essence, est capable d'être modalisée. Alors, ces mots sont sûrement pour le moment, ou ces distinctions sont sûrement pour le moment un petit peu abstraites ou compliquées. J'espère les préciser petit à petit. Donc je pense ceci pour commencer. C'est mon point de départ pour le raisonnement de cette fin d'après-midi, c'est que, à première analyse, à première vue, l'enjeu d'un mode d'emploi, ce pourquoi on peut envisager d'écrire un mode d'emploi, le mot « mode » étant écrit au singulier, c'est de réduire le jeu des modalités possibles d'une technique donnée, d'une technicité donnée, c'est-à-dire, je vais le dire autrement, l'enjeu du mode d'emploi, ça peut être, en première analyse, d'assigner des opérations techniques à une marche possible à une utilisation possible. Assigner les opérations techniques, comme on dit assigner à résidence. Si on vous assigne à résidence, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de bouger. Donc l'assignation de la technique par le mode d'emploi, c'est une façon de l'immobiliser dans une façon de faire, alors que peut-être une autre est possible. Il y a sûrement un but à ça. Le but de l'assignation par le mode d'emploi, en général, des opérations techniques, ça peut être, comme par exemple dans la recette de cuisine. J'avais plusieurs fois prendre cet exemple. La recette de cuisine, c'est une sorte de mode d'emploi. Dans la recette de cuisine, le but, c'est pas que je comprenne en quoi consiste la cuisine, ni quelles sont les propriétés des aliments que je vais combiner quand je vais fabriquer le plat que je fabrique. Le but, c'est pas la compréhension. Le but, c'est la réussite. Si vous suivez une recette de cuisine, c'est d'abord dans le but de réussir un plat. Et la fonction du mode d'emploi, c'est de vous permettre de le réussir alors même que vous ne comprenez pas ce qui est en jeu dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, le but du mode d'emploi, c'est... Alors, j'ai dit la réussite. En fait, il faudrait que je sois plus précis et que je dise c'est une réussite, une façon de réussir, une façon d'aller à la réussite, mais en fait c'est une réussite, un cas de réussite. Grâce au mode d'emploi, on obtient pour une zone de technique donnée, par exemple celle de la cuisine, un cas de réussite possible. Il suffit de suivre la démarche attentivement, précisément, comme elle est énoncée. Donc je pose ça. Qu'il y a dans la notion de mode d'emploi l'assignation d'un certain nombre d'opérations techniques à un cas, à une sorte de réussite possible. Et je voudrais vous proposer, c'est toujours ma première partie, de réfléchir un petit peu à la notion même de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Mot extrêmement à la mode. On entend beaucoup, comme si c'était une perspective dans l'existence de réussir. Eh bien, je dois à une sorte de conversation avec ma collègue Marie-Josée Monzin, que j'ai un jour entendue dans une série d'émissions de radio à laquelle je participais également, faire une distinction à laquelle je rends hommage, entre la réussite et le courage. La réussite se distingue du courage. Et je pense que justement dans le mode d'emploi, dans la recette de cuisine, il s'agit d'aller à la réussite quand bien même on n'est pas très courageux. Je vais prendre un autre exemple. Il me semble que le bricoleur est courageux. Je définis aujourd'hui, moi, le courage de la manière suivante, avec cette petite proposition. On est courageux quand même on fait. On fait quand même. Donc on sait que c'est dur. On sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a de la difficulté, mais quand même, on fait. Voilà. La réussite, c'est peut-être quelque chose vers quoi on peut aller sans courage, justement en s'épargnant d'affronter le « quand même » que vous entendez dans la petite formule que je viens de vous dire, être courageux, c'est faire quand même. Faire quand même. Le bricoleur est courageux. Il ne réussit pas toujours. Le bricoleur est courageux, le bricoleur fait quand même. Et même, je préciserai en disant, il me semble, que le bricoleur fait, quand bien même, il lui manque un certain nombre de ressources. J'ai une expérience du bricolage, j'ai regardé des bricoleurs bricoler, et j'ai toujours, au fond, ce sentiment que, en tout cas, j'ai des espèces d'images dans l'esprit, à l'instant où je vous parle, de quelqu'un que j'ai connu dans un atelier, et qui commence par regarder autour de lui qu'est-ce qu'il y a là, avec quoi il va pouvoir quand même faire quelque chose alors qu'il n'a pas la pièce d'origine. Il veut remplacer par exemple une pièce dans un ensemble, un objet technique complexe, il n'a pas la pièce d'origine ou son clone, et quand même il cherche à faire quelque chose qui pourrait le dépanner. Le bricoleur fait quand même, il fait quand bien même il lui manque un certain nombre de ressources. Ou bien, je peux vous dire, au fond, la même idée un peu différemment, bricoler, c'est faire en l'absence de ressources, en l'absence de certaines ressources au moins. En revanche, si je n'ai pas le courage d'affronter les difficultés, par exemple, de la cuisine, ben je vais suivre une recette. Je dirais un peu la même chose, il faudrait certainement que je nuance ce que je veux dire à l'instant, mais bon, pour réfléchir un peu, je vais être un tout petit peu excessif. Je dirais un peu la même chose que je viens de vous dire, la recette de cuisine, j'ai pas le courage d'affronter la difficulté de la cuisine, et donc je vais m'appliquer à suivre une recette qui me donne pas la compréhension de ce que je suis en train de faire, mais qui me permet de réussir. Je dirais la même chose au fond de tout ce que j'ai appelé là sur mes notes une idéologie du do it yourself. Idéologie du do it yourself ou formule do it yourself dans laquelle j'inclus également le succès de IKEA. Parce que je pense qu'il y a un lien, donc je pense que chacun d'entre vous voit de quoi il s'agit avec IKEA. Évidemment, il y a un mode d'emploi extrêmement sommaire, mais extrêmement efficace, dont certains humoristes, d'ailleurs, ont fait leur affaire, et d'où il ressort justement que le but de l'affaire... Jamais 203. Oui, donc j'étais en train d'évoquer les humoristes. Je pense à Gad Elmaleh, qui a un numéro fameux sur IKEA. L'enjeu, c'est on peut se réjouir d'avoir réussi à monter le meuble en suivant la recette. L'enjeu, c'est que ça permet de construire une image de sa capacité. T'as vu, j'ai réussi à le monter. J'ai réussi à la monter, la bibliothèque. T'as vu ? Réussite. Bon. C'est comme si, tout est dans le com, je témoignais de ma capacité à monter un objet, alors qu'en réalité, je suis parfaitement incapable de le monter. Donc il y va aussi d'une sorte d'image de soi, comme d'ailleurs dans toutes les réussites, certainement. T'as vu, je suis capable de le faire. En réalité, non. C'est le mode d'emploi qui a assigné mes gestes de telle sorte que ça marche quand même, sans que moi, je sois devenu pour autant plus compétent, c'est-à-dire sans que moi, j'ai eu le courage d'affronter ma propre incapacité, mes propres manques de ressources. Il me semble qu'on doit dire ça pour commencer quand on réfléchit sur le mode d'emploi. Ensuite, il me semble qu'on doit dire une deuxième chose, toujours pour commencer quand on réfléchit sur le mode d'emploi, qui n'est pas contradictoire avec ce que je viens de vous dire, même si apparemment je vais changer de registre. Il me semble qu'on doit dire en deuxième temps quand on réfléchit sur le mode d'emploi que, alors je vais le dire comme je peux, pour commencer, il y va, j'ai mis ça sur mes notes, il y va d'un changement du niveau de la force productive mobilisée. Il y a un mode d'emploi parce que ce qui se joue dans l'affaire, c'est un changement de niveau dans la force productive qu'on mobilise. Le mode d'emploi s'adresse aux sans-ressources, aux sans-capacités, aux sans-forces, aux faibles. Le mode d'emploi s'adresse à ceux qui sont, à des gens qui sont sans ressources, sans capacité, sans force, et par rapport à une technique donnée, en état de faiblesse. Muni d'un bon schéma technique, je peux, par exemple, démonter ou remonter un moteur ou un engin qui a été produit dans une disposition de capacité technique qui ne sont pas de mon niveau. Alors je suis en train, avec cette phrase un peu compliquée, de faire allusion à une espèce de souvenir personnel. Moi j'ai un souvenir de quand j'étais extrêmement jeune et que je passais une partie de mes étés à démonter des moteurs en suivant les schémas, et à les remonter aussi, en suivant les schémas, je ne sais pas si c'est toujours de la revue technique automobile, où on voit des assemblages de pièces. Alors vous démontez un moteur, il y a des pièces partout autour de vous, et ensuite il y a des petites rondelles et tout ça, et où est-ce qu'on les remet, etc. Alors le schéma, peut-être une variante du mode d'emploi, me permet de réussir à remettre à peu près en état l'objet que j'ai démonté. Mais ce qui m'intéresse de souligner à l'instant, c'est pour ça que j'ai parlé de changement de registre dans le niveau des dispositions techniques. En l'occurrence, je vais utiliser un vieux mot que vous connaissez peut-être pas, ou un mot qui n'est plus tout à fait en usage. Il y va dans l'affaire que je suis en train d'évoquer. Hein. Moi, par exemple, en train de démonter un moteur produit par l'industrie automobile dans un garage qui est un espace privé avec des outils un peu du genre de ceux que vous avez mis en projection tout à l'heure. Il y a un changement de niveau qui est de l'ordre d'un passage du niveau industriel, l'industrie automobile, au niveau d'espèce de bricoleur que je suis, mais pas vraiment bricoleur, puisque je ne suis pas en train d'affronter avec courage, mais de m'appuyer sur un mode d'emploi. Il y va d'un passage du niveau industriel de l'objet à un niveau, alors c'est là où je reprends un vieil adjectif, industrieux. Industrieux, c'était l'adjectif qu'on avait avant de dire. Bon, alors je reprends. Il y va. Sur des situations que j'essayais d'analyser rapidement, il y va, me semble-t-il, d'un changement de registre, qui est peut-être ce que permet le mode d'emploi ou le schéma technique à supposer que ça soit à peu près la même chose. Ce qui n'est pas sûr, j'y reviens tout à l'heure. Et en première approche, il y va grâce à au moins certains modes d'emploi ou une certaine sorte de mode d'emploi d'assurer la réussite d'un retour, d'un passage qui est peut-être un retour de l'industriel à l'industrieux. En tout cas d'un changement de registre dans la force productive qui est mobilisée. Le moteur a été fabriqué avec une force industriel avec des capacités techniques montées au niveau de la force de l'industrie, de l'âge industriel, et dans le travail que je fais le travail que je fais sur le moteur en le démontant, en remontant à l'aide du schéma technique, le registre de force qui est mis en œuvre, qui est mobilisé, c'est pas celui des forces industrielles avec des machines est extrêmement productrice et consommatrice en énergie, mais celle d'un petit corps, d'un corps humain isolé dans son garage, en train de faire à son niveau. Donc c'est ça le passage ou le retour de l'industriel à l'industrieux. Ça permet de faire quelque chose à son niveau, un niveau qui est celui des personnes sans force, sans capacité, ou plutôt arrangées du côté d'une certaine faiblesse. Hein, du point de vue de la force productive. Je pourrais peut-être un tout petit peu modifier la proposition ou la généraliser en disant ceci. Donc il me semble qu'on peut réfléchir avec cette idée que dans le mode d'emploi en général, considéré en général, ce qui est en jeu, ce qui se joue, c'est une certaine maintenance de l'industrieux dans le monde industriel. Alors, je ne sais pas, encore une fois, moi j'ai plusieurs fois dans mes cours utilisé l'adjectif industrieux sans me poser de questions, et les étudiants ne m'en posaient pas non plus, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une conversation à la pause, j'ai appris qu'ils ne connaissaient pas vraiment le sens de cet adjectif industrieux. J'espère que ce n'est pas votre cas, parce que sinon je suis mal parti pour la suite de mon exposé. Industrieux, ça fait allusion à une époque, si vous voulez, de l'industrie qui est antérieure à la société industrielle. Je ne sais pas comment vous dire, définir ça mieux qu'en disant les forces mises en œuvre, la capacité de production mise en œuvre relève de la force d'un corps individuel et pas forcément d'un corps super équipé en machines hyper puissantes et hyper performantes. Alors, il me semble qu'il y va de ça dans le mode d'emploi, peu ou prou. d'une certaine maintenance de l'esprit industrieux, même si cet esprit industrieux, il ne développe pas son activité dans une zone de courage créatif qui serait, par exemple, la zone d'effectuation du travail du bricoleur. Voilà. Voilà les deux grands points que je voulais dire en première partie. Le premier pas de mon raisonnement en trois temps. Ces deux composantes du mode d'emploi qui sont pas contradictoires, qu'il faut arriver à penser comme complémentaires, avec d'un côté la perspective de la réussite malgré tout courage, dans une certaine mesure, et en même temps quelque chose qui est de l'ordre de la maintenance d'un niveau de production, d'un type de production, d'un régime de production qui n'implique pas tous les éléments de la société industrielle parvenue à son plus haut degré de force de développement. On met ça de côté, c'est ce que je viens de dire. Vous vous le gardez dans la tête, vous laissez mijoter, parce qu'on parle cuisine, hein, et on passe à une autre composante. Deuxièmement, apparemment je vais changer de sujet. Apparemment. Je voudrais évoquer quelque chose de beaucoup plus cultivé, qui ne vient pas de mes prises de notes consécutives à mes promenades les mains dans les poches lorsque Grégory me commande de faire un exposé sur le mode d'emploi. Je voudrais vous dire que parmi les plus vieux textes que je connaisse, ou les plus vieilles pensées que je connaisse, qui se sont consacrées à éclairer autant que possible la notion de technique, hein, qui est un mot grec d'origine, techné, donc un texte de l'époque grecque, de l'époque des Grecs, de l'Antiquité, Aristote. Depuis que les hommes se sont mis à écrire à propos de quelque chose qu'ils ont nommé technique, c'est-à-dire en gros, depuis cette période-là, à ma connaissance en tout cas, depuis ce temps-là, la pensée de la technique est prise dans un nœud. Elle est nouée. Il y a un nouage de la pensée de la technique qui date au moins de l'Antiquité, au moins de Platon et Aristote. Quel est ce nouage ? C'est-à-dire que dans un nœud, finalement, on ne sait pas bien dans un nœud, si vous avez un nœud, vous ne savez pas forcément s'il y a deux morceaux de ficelle qui sont noués ou s'il n'y en a qu'un seul qui s'est noué lui-même. Est-ce que la pensée de la technique, c'est deux pensées qui se nouent ou bien c'est une seule pensée qui se fait des nœuds ? Bon, en tout cas, c'est difficile, depuis que les hommes se sont mis à avoir ce mot dans la tête pour lui donner une signification particulière, un statut particulier, la pensée qu'ils en donnent se noue à un moment donné, et sur les deux points suivants. Le nœud est constitué du fait que nous pensons de la technique les deux choses en même temps. D'un côté, la technique est définie plus ou moins dans nos esprits. Nous la pensons plus ou moins de la manière que je vais dire. Et en tout cas, elle a été explicitement définie comme telle dans un texte d'Aristote, au moins, depuis l'Antiquité. La technique est définie comme capacité. C'est une capacité, c'est un mode de pensée d'abord pour Aristote, c'est une capacité à envisager du possible. Je traduis, c'est pas dit littéralement comme ça dans le vieux texte d'Aristote, mais je pense que c'est bien l'idée. La technique est définie comme une capacité à envisager du possible et à le faire émerger effectivement dans le monde. On pourrait traduire cette idée en disant la technique, c'est le nom de ce. Alors, quel est ce justement, on cherche un peu, mais la technique est le nom de ce qui permet aux humains de mettre au monde des objets qui n'y étaient pas et qui n'y seraient pas venus d'eux-mêmes sans qu'ils fassent justement, sans qu'ils mènent justement à bien une opération technique. Capacité à envisager d'abord et à faire émerger effectivement ensuite du possible. Alors, Qu'est-ce que c'est que le possible? Aristote dit aussi le contingent. Il dit, en substance, dans les textes mêmes où il parle de la technique, que c'est à peu près la même chose, le possible et le contingent. Je pense que ça l'intéresse de lier les deux notions, parce que la vieille tradition logique, même déjà au temps d'Aristote, c'est que le contingent, ça s'oppose au nécessaire. Quelque chose qui est contingent, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas de manière nécessaire. Il y a, si la technique consiste à envisager le possible ou le contingent, et si le contingent, c'est ce qui n'est pas nécessaire, alors il faut bien comprendre que dans la technique, il n'y a pas de nécessité. Ni l'objet auquel on aboutit n'est nécessaire, ni peut-être la modalité avec laquelle on parvient à faire émerger cet objet n'est nécessaire. Et ça, c'est un point, je pense, très important. Je peux vous le dire autrement, si vous avez encore 2 minutes de patience. Alors, 2 minutes, c'est la rhétorique, parce que ça va durer quand même un peu plus longtemps. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais dans 2 minutes pour l'instant. Voilà. Réfléchissez un petit peu à ce qu'on appelle possible. Vous ne pouvez pas, dès que vous arrêtez pour réfléchir à ce mot-là, qui est un mot banal, mais dès que vous arrêtez un tout petit peu pour réfléchir à ce mot-là, vous êtes obligé, je crois, de penser que ce mot, vous ne pouvez pas le penser au singulier. Ce que ce mot signifie, vous ne pouvez pas le penser au singulier. Si j'ai devant moi, qui chemine, une seule route, il n'y a pas de possibilité devant moi. Pour qu'il y ait sur ma route de la possibilité, il faut qu'il y ait au moins 2 routes entre lesquelles je vais choisir une orientation. Le possible implique le pluriel. Il n'y a pas de possibilité qu'on puisse penser au singulier. Ça, c'est très intéressant. Parce que si la technique, ça consiste, comme le proposait le vieil Aristote, à envisager et à faire émerger du possible, ça veut dire qu'il n'y a pas de technique qui n'implique à un moment donné une orientation parmi une pluralité d'orientations possibles. C'est la définition même du possible ou du contingent. Il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas. Ça pourrait ne pas être. Ce qu'on va mettre au monde, ça pourrait ne pas être. Ça va être, mais ça pourrait ne pas être. La manière dont on va mettre la chose au monde, ça pourrait aussi ne pas être. Ça va être, puisqu'on va le faire, mais ça pourrait aussi bien ne pas être ou pas aller à l'objet de cette manière-là. Donc ça, c'est le premier élément de la pensée de la technique qui l'ouvre sur la notion, sur les notions de contingence et de possibilité. Bon. Mais d'un autre côté, c'est là qu'elle ne... Dans les mêmes textes du même Aristote, voilà. Et je crois presque toujours, dès qu'on se met à traiter ou à parler à propos de la technique, on dit une autre chose la concernant, qui est contradictoire avec le premier point que je viens de vous dire, et qui est ceci que on n'a peut-être jamais, alors je ne sais pas s'il faut dire penser, mais décrit les opérations techniques, le fait est, sans impliquer une certaine division entre les techniciens, une certaine division entre les hommes qui effectuent des opérations techniques, c'est-à-dire qui envisagent des possibles et font émerger l'un des possibles parmi tous les possibles possibles. Vous me suivez, hein? La division entre les techniciens, hein, ceux qui commandent et ceux qui exécutent. Les architectes, comme disait Aristote qui parlait grec et qui savait ce que le mot architecture veut dire. C'est très très intéressant la substitution du mot abri à texture de l'architecte. Bon bref, je ne vais pas me lancer dans les discussions linguistiques. La division entre ceux qui commandent et ceux qui exécutent, dans le texte d'Aristote, c'est les architectes et les manœuvres. Hein, ceux qui envisagent et ceux qui opèrent. Et cette division, elle est lourde de conséquences. On pourrait dire aussi, cette division, elle peut traverser un même individu technicien. Il y aurait dans toute opération technique quelque chose qui relèverait de la commande, de l'architecture, du projet, comme on dit aujourd'hui, mot tellement galvaudé, et puis quelque chose qui relèverait de l'exécution. je ne sais pas, moi je pense à une gravure de Dürer que j'ai plusieurs fois commentée, donc on est à la Renaissance, j'ai sauté quelques siècles, mais cette gravure m'intéresse beaucoup parce qu'elle montre comment dans l'opérateur technique qu'on va appeler un artiste peintre quelques siècles, quelques années, quelques décennies plus tard, la division passe à l'intérieur de l'individu entre sa tête qui commande et sa main qui exécute. Hein. Mais on n'a jamais peut-être réussi à vraiment décrire les opérations techniques sans tôt ou tard, plutôt tôt que tard, impliquer cette idée que, de fait, même si en principe la technique, ça consiste à envisager le possible et si c'est ouvert à la contingence, à la pluralité, etc., de fait, d'un autre côté, il y aurait toujours, inévitablement, ça revient toujours, comme si c'était inévitable, comme s'il n'y avait pas de possibilité autre que celle-là, une division entre du travail, entre la part de commandement et la part d'exécution, l'architecture et la manœuvre, le projet et la réalisation. Je propose, pour dénouer la difficulté, ça m'est venu sur le tard, cette idée-là, je propose, pour dénouer la difficulté, d'appeler, de faire une distinction entre quelque chose qui relèverait de la technique même, hein, qui est qu'il y a technique dès lors que du possible est possible. Du possible est envisagé comme possible. Et que même le chemin pour aller à la réalisation est lui-même pluriel. Ça, c'est la technique en soi. Ce qui est proprement la technique. Je propose de distinguer ça d'un côté, donc de dénouer, hein, de quelque chose que je vous propose d'appeler, pour réfléchir au moins, l'économie de la technique. L'économie de la technique, il me semble, c'est ça le nœud, est de très très longue date confondue avec la technique même ou l'inverse. La technique est de très très longue date confondue avec son économie. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que ça veut dire économie ? Pour définir économie, moi je suis très vieux. C'est-à-dire, je ne peux rien penser sans me ramener 25 bons siècles en arrière. Le mot économie, c'est un vieux mot grec, qu'on trouve par exemple chez un contemporain, quasi-contemporain, pas tout à fait d'Aristote, surtout de Platon, qui s'appelait Xénophon. Et quand Xénophon utilise le mot économie dans tel ou tel de ses textes, il désigne par là la disposition des instruments de pilotage autour du pilote dans un navire. C'est-à-dire, si je dois piloter, ça se dit gouverner. C'est la même étymologie, je vous le dis au passage, gouvernail et gouvernement. Gubernator, dans le vieux grec. Si je dois gouverner un navire, dans lequel, par hypothèse, il y a certains autres humains que moi dont j'ai, d'une certaine manière, à l'égard desquels j'ai, d'une certaine manière, une responsabilité, il vaut mieux que j'ai autour de moi bien disposé les instruments de pilotage, que si j'ai besoin d'attraper tel objet pour effectuer une tâche urgente, je ne sois pas là à le chercher et à le trouver quand il sera trop tard. C'est ça que veut dire économie. On va dire la bonne disposition, ou en tout cas une certaine disposition des ingrédients de l'opération technique. Quand la pensée passera de la langue grecque à la langue latine, dans les 3e, 4e siècles de notre ère, de l'ère dite chrétienne, bon, il y aura le mot oikonomikos se retrouve également chez Paul de Tarse, qui est plus connu sous le nom de Saint Paul. Et quand l'Église a dû faire passer ses textes de référence, ses textes canoniques de la langue grecque à la langue latine, elle s'est posée de sacrées questions, ça a été l'objet de plus que de querelles, pour traduire ce mot oikonomikos. Et il y a deux choix de traduction qui ont été adoptés. C'est un fait. Mais très intéressant, c'est disposition, disposition en latin, d'où vient dispositif, et administration. Donc, ce qu'ils ont compris dans le mot économie, c'est que l'économie, c'est une disposition et ou une administration. Je ne crois pas, pour le dire très rapidement, que ce sens nous est profondément quitté. Quand on parle d'économie aujourd'hui, en fait, pas les économistes que vous entendez se répandre, qui analysent des cours de statistiques avec plus ou moins de compétences et parfois plutôt moins que plus, et même souvent plutôt moins que plus, je parle de ce qu'il y a au fin fond de l'économie. Pourquoi nous avons des problèmes économiques? Pourquoi il y a des problèmes économiques? Réponse. Il y a des problèmes économiques parce que peut-être la façon de disposer ou d'administrer les capacités de production, la façon d'envisager les possibles, de les fabriquer, de les réaliser, la façon de disposer de la technique n'est précisément pas la bonne ou pas la plus heureuse ou quelque chose qui ne va pas dans cette disposition. Mais en même temps, nous avons le sentiment que, sous le nom d'économie, nous entendons quelque chose qui se réfère à de l'indiscutable. Il y aurait des lois de l'économie. Il y aurait des lois de la bonne disposition des objets techniques, de la bonne disposition des capacités de production. Voilà. Nous avons cette idée-là dans la tête, que l'économie, c'est une inévitable disposition, par exemple, des machines dans l'industrie textile du 19e siècle, telles que Karl Marx les a décrites. On ne peut pas disposer autrement si on veut que l'économie soit productive. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si vrai que ça? En tout cas, si la technique est plurielle, si elle a rapport au possible, dans leur pluralité, aux contingences, comme je vous disais il y a quelques minutes, il est probablement toujours possible de disposer des opérations productives autrement qu'elles ne sont. C'est ça le conflit. Je signale au passage que c'est très intéressant de regarder quel aura été dans l'histoire le rapport des designers avec les machines. Très nombreux sont les designers qui ont commencé leur carrière par le fait de redessiner des machines ou de redisposer des machines. Redisposer des machines. C'est-à-dire entretenir un rapport distancié avec l'économie au sens que je viens d'essayer de vous dire aussi rapidement et aussi clairement que je pouvais. Donc je crois qu'il y a noué dans notre mémoire concernant la technique deux éléments qu'il faut dénouer. Donc le premier élément, c'est nous pensons la technique comme, on va dire, en langage plus simple, créative, ouverture de possibles, réalisation de choses qui n'ont pas de nécessité puisque elles n'existaient pas jusqu'alors et elles peuvent commencer à exister. Elles n'étaient pas nécessaires parce qu'elles n'existaient pas. Aucun objet technique n'est nécessaire, si on réfléchit bien. Certains objets techniques sont vécus par nous comme nécessaires. Pour le moment, dans l'heure qu'il est, on ne peut pas s'en passer. Par exemple, d'automobile. Mais l'automobile n'a pas de nécessité. C'est un objet technique, donc ça n'a pas de nécessité. Il y a eu des siècles sans, il y aura peut-être des siècles sans également. Ça a été mis au monde à un certain moment donné, ça redisparaîtra probablement un autre moment. Il n'y a pas de nécessité. Mais d'un autre côté, nous avons cette idée qu'il y a une économie de la technique qui, elle, aurait des lois, de l'inévitable, une certaine rigueur nécessaire pour sa profitabilité. Je pense qu'on peut dire, donc ma position philosophique profonde, c'est de proposer de bien distinguer les deux choses, la technique et l'économie de la technique. Mais si on est dans l'économie de la technique, si on pense la technique d'un point de vue économique, alors il faut peut-être dire que la technique, à ce moment-là, on la regarde comme quelque chose qui est susceptible d'être instrumentalisé. L'économie, c'est une certaine disposition de la technique qui refuse d'être discutée et qui tient la technicité comme instrumentale, qui fait des objets techniques des instruments, qui se sert de la technique pour, qui l'instrumentalise. La technique n'est pas instrumentale par essence, mais l'économie de la technique l'est peut-être. Ça serait la proposition que je vous fais, un peu difficile, à l'heure qu'il est, j'en conviens, mais bon, je fais ce que je peux. Voilà, alors que vous m'avez, proposé. D'un côté la technique, de l'autre l'économie de la technique. D'un côté la technique dans sa créativité intrinsèque, de l'autre côté l'instrumentalisation de la technique. Qu'est-ce que c'est qu'un instrument? J'ai regardé tout simplement le dictionnaire Et j'ai trouvé ceci, objet utilisé pour une fin déterminée. Objet utilisé pour une fin déterminée, donc je vais juste souligner le « une ». Objet déterminé pour une fin déterminée. S'il y a plusieurs fins, ou si la fin n'est pas déterminée, on n'est plus dans la logique instrumentale. L'instrument, objet utilisé pour une fin déterminée, ou bien, dit toujours le dictionnaire, ce qui sert à obtenir un résultat. Donc je souligne lourdement, hein, ce qui sert à obtenir un résultat. Pas un autre, un et un seul. Alors, est-ce que tous les objets techniques sont finalisés en vue d'un seul résultat ou d'un seul usage ou d'une seule manière? Si la technique, est-ce que je vous ai dit, si c'est quelque chose qui a affaire au possible, la réponse est logiquement non. Mais dans l'économie de la technique, dans la logique instrumentale, la réponse est oui. Hein, c'est-à-dire, le mode d'emploi, j'y reviens, je le pense dans cet esprit-là. Le mode d'emploi est peut-être lui-même un instrument qui, de fait, définit une technique comme disposition pour un résultat. C'est la définition la plus générale à laquelle j'ai réussi à parvenir en préparant tout cet exposé. Donc j'espère que vous le suivez encore. En tout cas que je suis toujours en mesure de vous le faire suivre. Le mode d'emploi est lui-même un instrument, et peut-être lui-même un instrument qui, de fait, définit une technique comme disposition pour un résultat. Je vais faire ce plat et pas un autre. Par exemple, je suis ma recette de cuisine. Je vais remonter cet objet comme ça, et pas autrement, etc. Le mode d'emploi implique une idée de la technique comme disposition. Façon de disposer et d'être disposé. Mais voilà la question, ou voici plutôt la question. Est-ce que nous autres, les humains, nous opérons toujours pour un résultat? Est-ce que nous nous lançons toujours dans des opérations techniques pour un résultat? Alors, il y a deux façons d'entendre cette question. Soit que nous ne nous lancions pas dans des opérations techniques pour un et un seul résultat. Donc, après, on pourrait, avec des capacités techniques données, par exemple, on rassemble sur une table un certain nombre d'objets qu'on appelle des instruments, mais qui sont des instruments aussi longtemps qu'on ne fera qu'une seule sorte de chose avec eux. Mais est-ce qu'on ne peut pas, au moins pour certains objets qu'on appelle des instruments, d'une certaine manière, les désinstrumenter? Moi, j'appelle ça dans mon travail les appareiller, en faire des appareils. Hein, c'est un appareil, c'est un objet technique qui est capable de produire des résultats, pas un. Voilà. Est-ce qu'on fait toujours de la technique pour un résultat? Est-ce que même parfois, on ne peut pas s'aventurer dans une opération technique? C'est-à-dire, comme on part à l'aventure, on ne sait pas où on va. On n'a pas l'idée qu'il y ait un résultat au bout. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des façons de faire technique qui ne visent aucun résultat a priori? Peut-être qu'il y aura un résultat au bout du compte, mais ce résultat n'est pas disposé d'avance dans la façon d'envisager la démarche. Il me semble bien évident que dans le mode d'emploi, le résultat est disposé d'avance. C'est même le principe du mode d'emploi, c'est d'une certaine manière de nous empêcher d'aller à l'aventure, d'aller dans un champ d'opération technique à l'aventure. Donc je mettrais plutôt du coup le mode d'emploi dans son esprit, dans son essence, du côté non pas de la technique, mais de l'économie de la technique, si je suis à peu près clair dans mon exposé. Ça va ? Bon, est-ce que vous voulez que je vous dise ça autrement? Pas mal, vous devez dire oui. Alors je vais vous le dire autrement, puisque vous insistez. Mais c'est la même idée. Pas du tout le même vocabulaire, mais c'est la même idée. Je vous propose de distinguer entre emploi et travail. Je vous propose donc de distinguer entre emploi et travail, et donc, si vous voulez, c'est la même idée dans le sens où le mode d'emploi n'est pas ce qui nous permet de travailler avec des éléments techniques. Alors, quelle est la différence? Il me semble que quand on parle d'emploi, cette notion présuppose, admet a priori, que ce qui ressort, ce qui va ressortir de l'opération employée, soit et doivent être préformés. L'employé, c'est pas un travailleur, si je traduis, c'est pas la même chose, être employé et travailler. Voilà. L'employé, c'est quelqu'un qui est assigné à un poste de travail et dont la tâche est prédéfinie. Et si c'est un bon employé, il doit, au bout de son temps de travail, qu'on appelle temps de travail, mais on ne devrait pas, son temps d'emploi, il va faire ressortir effectivement ce qui est prévu, ce qui a été anticipé, ce qui a été envisagé d'avance et pour lequel on a disposé un poste de travail qu'on appelle le travail, mais qui en réalité est un emploi, avec, par hypothèse, une certaine efficacité. Je peux dire ça un petit peu différemment. Il y a, je ne sais pas trop comment le dire, une sorte de passivité créatrice chez l'employé qui ne se trouve pas chez le travailleur. Je propose d'appeler travailleur quelqu'un qui n'est pas passif lorsqu'il opère. Et employé, quelqu'un qui peut se permettre, et même à qui on demande, de l'être lorsqu'il opère. La passivité de l'employé ou de l'emploi, le moment de passivité qui fait que, au fond, il s'agit de faire quelque chose sans y mettre de soi. Le travailleur, il met quelque chose de lui dans son travail. L'employé, pas. L'employé, il doit même se distraire de sa tâche. Il doit pouvoir l'exécuter sans y penser. Le travailleur, non. En tout cas, vous pouvez après, on peut toujours passer d'autres conventions terminologiques. Ce qui m'importe, c'est qu'on distingue deux sortes de façons d'être. Opérateur, hein, l'opérateur non créatif, passif dans la créativité, exécutant, et puis un autre que je propose d'appeler plutôt un travailleur, parce qu'en fait, je me rappelle que travail signifie au Moyen-Âge, c'est un registre de vocabulaire qui est pas loin de celui de l'accouchement. Donc mettre au monde, faire naître, vous voyez, mettre au monde un être qui n'y était pas, quelque chose de créatif. Là-dedans, aussi difficile que ça soit, naturellement, mais quand même quelque chose de créatif. L'idée économique de la technique consiste à produire des emplois plutôt que du travail. La domination de l'économie sur la technique, si j'ai été clair dans mon exposé, me semble conduire à multiplier des situations d'emploi plutôt que des situations de travail. Mais j'espère vous avoir fait entendre que, pour ce qui concerne ce que j'ai appelé tout à l'heure la technique elle-même, non pas la technique dans son économie, mais la technique même, pour ce qui concerne donc la technique même, c'est tout à fait différent. La technique même, quand on se met à se rapporter, non pas dans un esprit économique à la technique, mais dans un esprit technique à la technique, alors plein de choses sont possibles. Alors de la créativité est possible, et autre chose que de l'emploi et de l'exécution sont également possibles. Je voudrais, pour illustrer cette idée, vous proposer rapidement un grand exemple historique, et proche de nous, et proche de vous. Un grand exemple historique est plutôt réputé se trouver du côté du champ de l'art, mais je pense qu'on devrait plutôt le penser comme étant justement un exemple qui concerne éminemment la technique. La photographie, le cinéma et ce que j'appelle de façon plus générale les appareils d'enregistrement. La mise en œuvre de ces trois capacités techniques qui en fait sont une seule, hein, la photographie, la cinématographie et, par extension, les appareils d'enregistrement dans lesquels on peut intégrer le magnétophone, l'enregistrement du son, ces choses-là. Évidemment, ces appareils-là eux-mêmes en tant que ce sont des objets techniques, ils ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils sont par eux-mêmes productifs. Ce n'est pas des instruments. Une caméra, ce n'est pas un instrument. Une caméra ou un appareil photo, ce n'est pas un instrument parce que ça produit de soi quelque chose. Ce n'est pas le photographe qui fait la photo. C'est l'appareil photo qui fait la photo pour le photographe. Voilà. Quand vous faites une photo, alors aujourd'hui, bien sûr, les temps de pose sont extrêmement rapides. Mais autrefois... c'était plus long. Quand vous faites une photo, en réalité, vous abandonnez pendant un 25e de seconde, un 30e de seconde, une seconde, plus ou moins, peu importe. Vous abandonnez à l'appareil le fait de faire la photo à votre place. Vous lui confiez la tâche et il l'a fait. Et il l'a fait sans que vous ne puissiez rien. Il l'a fait de lui-même. C'est lui qui fait la photo. Ce n'est pas un instrument. Alors on peut essayer, et c'est ce qu'on a fait dans l'histoire, par exemple avec les caméras cinématographiques, elles sont... une caméra, c'est un objet qui est en lui-même aventureux. C'est un objet qui va enregistrer de la lumière d'une façon que vous ne savez pas. Alors peut-être vous pouvez vous habituer à votre appareil. Je vais revenir en conclusion sur les smartphones tout à l'heure. Je parle des générations d'appareils photo antérieurs. À ce mode-là. Mais disons, le photographe traditionnel, il confie à son appareil le soin d'effectuer l'opération. Les grands photographes n'emploient pas leur appareil photo. D'ailleurs, ils entretiennent avec lui une relation que je qualifierais de personnelle. Et ils ne se comportent pas comme des choses. Ils les regardent, ils les considèrent, ils se demandent avec eux pour un peu, ils les tutoient, qu'est-ce que tu vas me faire aujourd'hui, hein? Quelque chose de ce type-là. Il ne les emploie pas. Voilà. En tout cas, on a là affaire à une génération d'objets techniques qui peuvent être instrumentalisés, mais qui, en eux-mêmes, ne sont pas des instruments, mais en effet, des appareils productifs. Et l'enjeu de ça, c'est quoi? C'est de faire quelque chose avec des accidents lumineux ou sonores, si c'est un magnétophone. Accident. Un appareil photo... c'est un objet technique qui enregistre des accidents de lumière. Je parle latin. Accidit en latin, typologie de accident, ça veut dire ça arrive. Il arrive quelque chose. Voilà. C'est ça un accident, quelque chose qui arrive. Donc un appareil photo, c'est un appareil muni en son sein d'une surface sensible à laquelle arrivent des accidents, un accident lumineux, un accident de lumière. On a ouvert. Un certain temps et de la lumière est entrée que la surface sensible a accueilli et enregistré. Un appareil photo, ça fait avec des accidents de lumière, des acquidites, des choses qui arrivent. Ça, c'est la nature technique de l'objet que je suis en train d'analyser. La technique même, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant, il y a l'économie de la photographie. L'économie du cinéma, en quoi ça consiste l'économie du cinéma? Ça consiste à entourer de tellement de précautions le tournage des appareils, la mise en œuvre des appareils, que ces appareils ne donnent plus que ce qui est escompté par le réalisateur, ce qui est escompté. Entourer le moment où l'appareil travaille, où il enregistre les accidents lumineux, ou les accidents sonores si c'est un microphone ou un magnétophone, l'entourer de précautions telles que finalement la mise en œuvre, le tournage de l'appareil ne finisse plus par donner que ce qui est escompté. Que ça ne se passe pas comme ça, que l'appareil donne quelque chose qui n'est pas escompté, que le tournage donne quelque chose qui n'est pas escompté, c'est ce qui est redouté par l'économie du cinéma. Ce qui est redité à Hollywood en tant que c'est le lieu par excellence de l'économie du cinéma, c'est précisément qu'au moment du tournage, il y a des accidents. Et pas des accidents au sens quelqu'un se casse la jambe, etc. C'est qu'il y a un accident, c'est-à-dire que la lumière soit plus, je sais pas comment dire, plus blanche que prévu. Hein, qu'il y ait un accident dans le tournage même. Et il s'agit d'entourer de précautions, par exemple de neutraliser la lumière. C'est quand même un paradoxe. L'industrie du cinéma, l'économie du cinéma, c'est un rapport à la technique cinématographique qui consiste à neutraliser la lumière même. On va éclairer tout de façon maîtrisée. Voilà. Alors que l'essence de l'objet technique, c'est précisément de s'ouvrir à l'aventure de l'accident lumineux. Je ne sais pas si je suis clair, évidemment, je l'espère. L'économie en général, l'économie du cinéma dans mon exemple, ce qu'elle redoute, c'est que les objets techniques avec lesquels elle travaille lui donnent quelque chose qui n'était pas déjà d'avance escompté. Contre ça, elle se protège. L'économie du cinéma, paradoxalement, c'est une sorte de grande protection contre les capacités des caméras. L'économie du cinéma, c'est une sorte, je répète, de protection, de grande protection, de protection d'avance, d'assurance. C'est un langage d'assureur. De prendre des précautions. La précaution, c'est un vocabulaire d'assureur. Prendre des précautions pour que la technique avec laquelle on travaille ne donne pas quelque chose qu'on n'avait pas envisagé d'avance. Finalement, qu'elle ne donne pas, qu'elle soit entièrement cadrée. Eh bien, je pense que ce que j'ai essayé de vous dire, je dois pouvoir l'appliquer au mode d'emploi, à la recette, etc. Il y va dans tout ça d'une garantie. Une garantie. Alors, je suis une recette de cuisine parce que ça me garantit la réussite. Ça me garantit que ma cuisine même ne va rien me donner, que je n'escompte pas d'avance. D'ailleurs, j'ai déjà l'image sur mon livre de recettes du résultat. Hein, et je vais vérifier que ça me donne bien, ça ressemble bien au bout du compte, à ce que ma cuisine donc, finalement n'a rien donné qui ne soit prévu, qui ne soit escompté d'avance. Ça interdit donc les valeurs de l'aventure, ça interdit les valeurs de la déroute, de la bifurcation, toute une série d'itinérances possibles avec les situations techniques. Ça interdit aussi l'adversité, le duel avec, finalement, c'est pas le duel, je veux pas dire se battre avec, adversaire, c'est pas ennemi, adversaire, adversus en latin, ça veut dire versus, c'est le regard. Et advers, le regard tourné vers. C'est-à-dire, si je regarde quelqu'un les yeux dans les yeux, nous sommes adversaires au sens strict du mot et pas ennemis. Hein. On s'affronte front à front. Voilà. La recette évite les situations d'affrontement avec l'objet technique, avec ce qu'on appelle les instruments précisément. Un instrument, c'est un objet qui a une capacité de production avec lequel on ne s'affronte pas. On n'a pas d'adversité et le mode d'emploi réduit la dualité entre l'opérateur et l'objet avec lequel il opère. Je ne sais pas si je vous parle clairement. La valeur, c'est pas l'aventure, je l'ai dit, c'est pas la bifurcation, c'est pas la déroute. La valeur, si je devais la résumer, la valeur que je trouve au sein de la recette des cuisines, du mode d'emploi, etc., c'est la ductilité. La ductilité ou la fluidité. Il faut que ça soit fluide, il ne faut pas qu'il y ait justement de rencontres imprévues sur la route et que ça aboutisse au résultat le plus vite possible. Alors, il est tard, j'avais prévu tout un développement qui passait par Descartes, je vous l'épargne, parce que ça ne passera pas. En tout cas, le modèle est là. Le modèle est là. Hein. Descartes avait écrit un livre qu'on a retrouvé d'ailleurs très tardivement, Les règles pour la direction de l'esprit, et dans lequel il définit ce que c'est que la déduction, et où il y a tout ce vocabulaire de la fluidité, les règles pour la déduction. Il s'agit d'aller au résultat le plus fluidement, le plus rapidement, à la plus grande vitesse possible, et sans adversité, voilà. Sans qu'il se passe rien pendant l'opération elle-même. Le principe de la recette, c'est la neutralisation de l'opération elle-même. Voilà. À grande échelle, à l'échelle de la grande industrie, sur le plan historique, il me semble que le taylorisme aura été l'héritier objectif de cette idéologie de la ductilité qu'on peut trouver dans les textes de Descartes. à l'échelle d'une moindre division apparente du travail, au niveau d'une opération qui semble individuelle, l'héritier de l'image cartésienne de la ductilité, c'est le mode d'emploi, me semble-t-il. Pourtant, si on examine attentivement ce que c'est qu'un mode d'emploi, par exemple celui d'IKEA, on s'apercevra que ça implique une grande, grande division du travail, que c'est un enchaînement d'opérations individuelles qui est tributaire de toute une gestion de la division du travail. Ça ne se passe jamais à l'échelle strictement individuelle. Donc en fait, quand je fais une recette, quand je suis un mode d'emploi, je pense que je fais quelque chose à mon niveau de corps individuel. En réalité, je suis travaillé par une logique de l'organisation des tâches, de la gestion, de la division des tâches, de la division, évitant l'accident, hein, la chaîne de production. Suivant une recette, je suis finalement l'élément ultime de la division du travail telle qu'elle s'est mise en œuvre dans ce qu'on peut appeler la grande industrie. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fait la troisième partie, vous avez de la chance. Parce que ça serait long. Voilà. Ça aurait été une partie plus heureuse, dans laquelle je vous aurais fait des propositions. C'est-à-dire essayer d'imaginer. Alors, est-ce qu'il faut l'appeler mode d'emploi ? Non. En écoutant Caroline tout à l'heure, j'ai noté l'expression access to tools. Hein, j'ai vu ça passer. Donc je me suis dit, je vais appeler ça accès à la technique. J'aurais fait des propositions de travail pour réaliser des documents que je vous proposerai de ne pas appeler mode d'emploi, mais accès à la technique. Et j'avais amené le mode d'emploi de l'appareil photo numérique que j'ai acheté au début des années 2000, sorte de contre-exemple, qui a comme caractéristique de présupposer un résultat qui serait une sorte de valeur esthétique absolue pour la photographie, et qui, tout le mode d'emploi, bien, ça serait très long de l'analyser, hein, ça fait, vous voyez, l'épaisseur de l'objet, d'ailleurs, c'est de contresens. Ça présuppose que la photographie doit donner une certaine sorte d'image, le résultat, la valeur esthétique archivalorisée dans les modes d'emploi des appareils numériques, en tout cas de cette époque, c'est la netteté. L'image doit être nette et un certain cadrage. Et j'aurais proposé, si j'avais le temps de travailler, mais peut-être en plus petit groupe, de confectionner un document qui envisagerait pas d'entrée de jeu un résultat, une certaine sorte d'image bien nette, bien cadré, mais qui structurerait la lecture qu'on en ferait en analysant le principe, puisqu'il s'agit d'un manuel de photographie, de l'opération photographique ou de la technique photographique. Il y aurait un document à réaliser qui remettrait à ceux que nous sommes, nous qui nous apprêtons non pas à utiliser les appareils photographiques, mais à faire quelque chose avec eux, il nous serait proposé peut-être un raisonnement ou un document en quatre temps hein, qui partirait de l'analyse technique. Hein. Premièrement, on expliquerait que il n'y a pas de photographie s'il n'y a pas une surface sensible exposée à la lumière. Et on montrerait qu'on peut faire des modifications relatives et de la sensibilité et du temps d'exposition. Donc on montrerait diverses sortes d'images résultant de ces variations-là. Deuxièmement, on dirait qu'est-ce qui se passe si, à ce minimum qui est photographie, une surface sensible, un certain temps exposé à de la lumière de telle sorte qu'il y ait des accidents lumineux, ce temps pouvant varier, modification, et la surface sensible, la sensibilité même pouvant varier, hein, donc on a déjà des modes. Hein. Donc, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui se passe si, à ce minimum élémentaire pour qu'il y ait photographie, on adjoint une optique et qu'on fait varier les propriétés de cette optique, hein, c'est-à-dire on change la focalisation. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe si on ajoute à l'optique un diaphragme et qu'on fait varier le diaphragme? Et quatrièmement, qu'est-ce qui se passe quand on rapporte tout ça à un quatrième élément qui est le viseur, le cadrage? Donc dans le document d'accès à la technique photographique que j'imaginais auquel j'imaginais de vous faire réfléchir, je vous fais remarquer que ce que je mets en dernier point, c'est ce par quoi commence le mode d'emploi de mon appareil, c'est-à-dire le cadrage, qui est ce qu'il y a de plus extérieur à la technique photographique même, mais de plus proche de l'économie de la photographie. Bon, je crois qu'il faut que je m'arrête, puisque j'ai parlé suffisamment longtemps. Maintenant, je ne pense pas avoir été suffisamment explicite et précis sur bien des points, mais pour conclure, vraiment pour conclure cette fois, aux jeunes qui travaillent si j'ai bien compris, dans les secteurs où vous travaillez, ou même à certains étudiants dont je m'occupe, où je me suis occupé par le passé à Paris, j'aimerais bien faire une proposition de travailler sur le renommage et la ré-iconification des capacités de la fonction appareil photo d'un smartphone, d'aujourd'hui. Dans les icônes mêmes, et dans les noms qu'on donne à ces icônes qui désignent des opérations, il y a un mode d'emploi. Un mode d'emploi qui s'affirme, une économie de l'image qui s'affirme, et il faudrait justement, en travaillant ces icônes et la dénomination, sortir du résultat esthétique prédéterminé pour ouvrir la technique, même celle-là, à ses propres possibilités au pluriel.